des conseils et des astuces pour avoir la main verte sur notre territoire. Bienvenue dans Brin de Jardin, les chroniques d'un jardinier. Bienvenue à toutes et à tous dans Brin de Jardin, l'univers du jardin que nous retrouvons chaque semaine en compagnie de Romain Jacquier-Laforge qui est jardinier. Bonjour Romain.
Bonjour.
Romain, c'est une question un peu traditionnelle que l'on se pose désormais chaque mois dans ces chroniques Brin de Jardin qui sont hebdomadaires. Que faire donc au jardin ce mois-ci? Nous sommes actuellement au mois de janvier.
Alors, je vais commencer même par souhaiter des bons vœux à toutes les personnes qui nous écoutent.
Tout à fait, c'est l'occasion.
Voilà, exactement. Meilleurs vœux pour cette année 2026. Donc, en janvier, il y a quand même du boulot. Alors là, on n'est plus sur le potager, on fait l'ensemble du jardin. Parce qu'autrement, le potager, c'est vrai que c'est tellement limité. On peut encore planter. Alors, ça va bien sûr dépendre du temps qu'il fait. Hein. Quand il gèle trop fort ou quand le sol est gelé, on ne peut plus planter, hein, bien sûr. Par contre, autrement, dès que le sol est dégelé... Alors là, on enregistre début janvier. C'est compliqué. Hein, le sol est gelé pratiquement tout le temps. Mais voilà. Mais autrement, si ça dégèle un moment, vous pourrez encore planter au potager de l'ail rose et les topinambours. Après, pendant que c'est l'hiver et qu'on reste au chaud en général au coin du feu, pensez aussi éventuellement à faire un petit plan pour regarder ce que vous avez planté, où vous l'avez planté dans le jardin, pour éventuellement donc prévoir une rotation des cultures et donc déplacer vos plantes, qu'elles ne soient pas au même endroit que l'année dernière. Et ça, en général, ça se fait par famille. Donc après, il faut faire attention aux familles, et donc par exemple se dire que la tomate, les aubergines, les poivrons, les piments, tout ça, et les patates, c'est la même famille, et puis donc après voilà, faire attention à ça et donc ne pas remettre une plante de la même famille au même endroit. Il y en a qui sont plus accommodantes que d'autres, mais il y en a qui craignent vraiment d'être plantées au même endroit pour des risques de maladies, d'insectes. Donc voilà, si vous pouvez essayer de déplacer, en sachant que c'est plus facile à dire qu'à faire suivant son jardin. Au verger, par contre, vous avez pas mal de choses à faire. Donc, on peut encore bien sûr planter les arbres et les arbustes fruitiers, hein, pas de problème. Vous pouvez commencer aussi à prévoir tout ce qui est nichoir à oiseaux. Bien sûr, si vous voulez... Alors après, bon, ça, c'est un petit peu différent, mais si vous voulez nourrir les oiseaux un peu cet hiver, il fait froid, tout ce qui va être assez gras, boule de graisse ou autrement, les graines, hein, et notamment le tournesol, ça marche pas mal. Mais après, ça dépend aussi, bien sûr, des oiseaux que vous avez dans votre jardin. Des fois, il va falloir mettre des insectes ou des choses comme ça. Donc, voilà. Voyez un petit peu ce que vous mettez. On peut commencer aussi à stratifier les noyaux de pêche et de cerises. Donc tout ça, stratifier, ça veut dire mettre dans du sable. Et c'est pour, si vous voulez faire des semis donc de pêcher ou de cerisier, en sachant que si vous faites un semis, vous n'aurez pas la même chose que l'arbre d'origine, si c'est une variété un peu qui vient d'être croisée, en fait, quelque part. Hein, si c'est, par exemple, un pêcher de vigne que vous semez, vous aurez quelque chose de d'approchant exactement. Mais si vous essayez de semer une cerise d'un Bigarro Burla ou même une pêche Hamsden, quelque chose comme ça, donc d'une variété, vous n'arriverez pas à voir la même chose. Mais ça peut être des fois utile pour avoir des porte-greffes ou essayer de découvrir une nouvelle variété au hasard de la génétique. On peut aussi penser à éliminer le gui. Le gui, c'est un parasite. Alors après, on voit fleurir des fois des choses qui vous disent que le gui, c'est génial. Enfin voilà, ça absorbe une partie de la sève de l'arbre. Donc bon, en général, le gui, il vaut mieux l'enlever sur ces arbres. Et donc, il faut couper la branche, puisqu'en fait, il est rentré à l'intérieur de la branche. Il a fait des canaux qui vont prendre la sève. Qui passe sous la branche, donc c'est pas juste en coupant la partie verte, c'est vraiment en coupant la branche un petit peu en dessous du gui qui est inséré. On peut aussi prélever donc les greffons. Les greffons, ce seront donc les parties que vous allez venir incruster donc sur un arbre. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure donc des porte-greffes d'arbres fruitiers. Donc si par exemple vous avez un cerisier sauvage, vous allez pouvoir au printemps, plutôt en mars ou en avril, venir mettre sur ce porte-greffe la variété que vous souhaitez multiplier. Et donc, si vous avez chez vous une plante qui vaut le mérite d'être multipliée, ou si vous avez aussi des voisins, ça peut être le moment aussi d'échanger avec ses voisins des greffons, en fait, tout simplement. Donc, ça, on les met en jauge. Donc, on les met en jauge, on va bien les attacher, en général, par variété, hein. Il ne faut pas se mélanger les variétés, bien sûr. Et on va les mettre au nord contre un mur, à moitié enterré dans la terre, en général à peu près à 45 degrés, pas tout droit. Et donc ça permettra d'avoir des greffons qui seront prêts à être greffés au printemps. Il faut les préparer maintenant. Si vous attendez trop tard, il peut y avoir de la sève à nouveau dans les greffons et ça ne marchera pas. Il faut vraiment que la plante soit en repos végétatif. Avec les températures qu'il fait, là, c'est très très bien, on n'a pas de souci. Pendant qu'on y est, on va nettoyer tout ce qui est sur les arbres, les fruits momifiés et les branches desséchées. Alors, les branches desséchées, ce n'est pas toujours évident en plein hiver. J'entends bien, ça ne saute pas toujours aux yeux, mais des fois, justement, sur les bourgeons, ça se voit, ou alors sur l'écorce, une écorce qui est, une branche qui est morte, l'écorce, en général, elle va venir se strier, elle sera plus lisse et quelque part, tout autour de l'arbre, elle va faire comme des rides, en fait, elle va être ridée. Donc, on en profite pour le nettoyer.
Et pour les fruits momifiés dont tu parles, est-ce que tu as quelques conseils pour nos auditeurs, nos auditrices? Comment s'en débarrasser? Est-ce qu'on secoue l'arbre, par exemple?
Alors, en général, ils sont très collés. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Sur les cerisiers, notamment, c'est un peu horrible parce que des fois, ils tombent aussi sur les branches et après, ils se collent même sur les branches. Donc, c'est vrai qu'en secouant, ça ne suffit souvent pas. Il va falloir essayer de monter, essayer de des fois couper pour que ça tombe. Et bien sûr, pas les laisser par terre parce qu'en fait, c'est donc une maladie, hein, c'est de la moniliose. Et cette maladie, si vous voulez, si elle tombe par terre, elle va remonter au printemps avec l'eau qui va tomber en fait, du ciel, hein, donc la pluie, les choses comme ça, éventuellement par les insectes. Éventuellement aussi par vous quand vous allez toucher, puis après toucher votre arbre. Et donc ces spores de champignons vont pouvoir germer quelque part et donc après se développer à nouveau sur votre arbre. Et ça, c'est vraiment problématique parce que, notamment sur les cerisiers, sur les abricotiers, sur d'autres arbres fruitiers comme ça, sur les pruniers aussi, ça peut jusqu'à tuer votre arbre au bout d'un moment. La moniliose, donc le truc qu'on voit vraiment, c'est les fruits momifiés. Mais après, ce qui se passe, c'est que dans un deuxième temps, le champignon rentre dans l'arbre. Vous avez des petits rameaux qui sèchent, qui dessèchent sur votre arbre à l'intérieur. Et si ça continue et si ça se développe bien, en sachant qu'en plus, une fois que c'est dans l'arbre, on ne peut plus rien faire pour l'arbre, on n'a plus aucun moyen d'action pour traiter cet arbre, et bien après, ça peut faire mourir votre arbre à terme. Ça se développe beaucoup quand il fait des printemps humides, des choses comme ça. Bon, mais voilà, je pense qu'il y a des personnes qui ont des cerisiers là, qui sont en train d'écouter et qui doivent se rendre compte qu'ils en ont chez eux. Donc, nettoyez-les bien, mais pareil sur les pommiers ou sur les autres arbres fruitiers. Et donc, quand c'est tombé par terre, après on ramasse et on n'y met pas son compost parce qu'on n'arrivera pas à s'en sortir comme ça. Il faudrait aller les jeter soit loin, soit autrement les jeter à la déchetterie. On peut pas, le compost ne va pas monter suffisamment en température pour détruire le champignon. Donc voilà, mettez pas au compost, ça ne sert à rien. Donc après, on peut aussi penser pendant qu'on y est, des fois on a encore des pommes, des choses comme ça, monter de temps en temps, regarder dans quel état c'est, parce que voilà, suivant les variétés, ça s'abîme plus ou moins vite. On les décale bien toutes les unes des autres. Faire attention s'il vous reste des kakis ou des choses comme ça encore. Pareil, aller voir de temps en temps pour ne pas se retrouver avec tout un tas de pourriture à un endroit. On va pouvoir aussi tailler un peu les arbres et les arbustes hors période de gros gel. Et notamment, quand on a des groseilliers et des cassissiers, on peut conserver ces rameaux en fait, pour les bouturer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ces rameaux qu'on va tailler. Donc, ça ne sert à rien de conserver des vieux rameaux. Hein. Par contre, si quand vous nettoyez votre groseillier, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever des fois quelques vieux rameaux à l'intérieur. Mais c'est plutôt sur des rameaux jeunes qu'on va venir prélever et on va les mettre en terre, enterrer de moitié. Donc, sur une vingtaine de centimètres, un rameau, vous allez l'enterrer à peu près d'une dizaine de centimètres. En général, ça repart assez bien. Donc, ça permet après de rajeunir ces plantes ou d'en donner éventuellement à d'autres personnes. On peut aussi profiter, pendant qu'on est sur les petits fruits, de nettoyer les framboisiers. Les framboisiers, vous avez des framboisiers qui donnent deux fois dans l'année, qui sont dits remontants, et donc qui donnent en gros en mai et pas mal en septembre, août-septembre. Et puis, il y en avait qui donnent qu'une seule fois, à peu près en mai. Alors, bien sûr, quand je dis ça, pour les gens du Vercors, sur le plateau, ça se décale, bien sûr. Et d'ailleurs, vous, visiblement, ceux qui donnent une deuxième fois en automne, ça va dépendre vraiment de la chaleur et tout. Donc, vous, chez vous, là-haut, préférez peut-être les variétés qui donnent qu'une seule fois dans l'année. Vous êtes sûr d'avoir vraiment quelque chose. Et donc, ceux qui donnent deux fois dans l'année, on peut les retailler à peu près à ras, complètement. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut enlever, surtout au moins dans ce cas-là, c'est toutes les vieilles cannes qui ont déjà donné, et qui sont en train de mourir en fait quelque part. Hein. Mais si vous les taillez à ras, vous décalerez juste votre première ramasse un peu plus tard dans la saison, ce qui n'est pas très grave. Par contre, ceux qui ont des framboisiers qui ne donnent qu'une fois dans l'année, si vous taillez à ras, vous n'aurez pas de fruits. ils vont fleurir sur les cannes qui sont déjà là. Donc ne les taillez pas, attendez qu'ils aient fructifié. Et après la fructification, c'est des fois même le plus simple, celles qui ont donné, on les coupera puisqu'il y a les nouvelles qui sont en train de sortir et qui vous donneront les fruits pour l'année prochaine. Alors, on va finir sur le jardin un peu d'ornement. Donc, on peut toujours tailler, hein, bien sûr, ces arbres, ces choses comme ça, hors période de gel. Vérifier éventuellement les graines. Enfin, voilà, et ça, c'est pareil pour le potager. Regardez celles qui sont périmées éventuellement. Soit, et testez-les quand même. Essayez de voir si elles peuvent germer. Sinon, vous les jetez. Comme ça, ça évite de se garder du stock qui ne sert à rien. Et puis, en plus, on compte dessus. Et au moment où on va les faire germer, ben, on n'y arrive pas. Après, ça nous décale d'un moment. Et donc, des fois, ce n'est plus le bon moment. Quand il y a beaucoup de neige, maintenant, on plante de plus en plus de persistants. Donc, les persistants, c'est les arbres qui gardent leurs feuilles l'hiver. Alors, je pense notamment aux mimosas ou à des eucalyptus, enfin voilà. Faites attention, ou à l'olivier. Faites attention si jamais il y a des chutes de neige qui sont un peu lourdes, à bien aller les secouer un petit peu, parce qu'en fait, c'est des arbres qui ne sont pas faits pour la neige et qui peuvent vraiment s'abîmer dans ce cas-là. Donc, il suffit d'aller les taper un petit peu, enfin voilà, d'aller les secouer.
Mais ce sont des arbres qui supportent tout de même des températures négatives ?
Oui, ça dépend en fait, mais effectivement, oui. Moi, je vois même, j'ai vu un chêne vert tenir à peu près à moins 20. Voilà, je m'en rappelle de ça. Bon, moins 20 ici, ça c'est pas arrivé depuis un petit moment, mais vers la plaine de la Bièvre. Enfin voilà, il y a des arbres qui tiennent très bien, mais il y en a d'autres, bien sûr, qui ne tiennent pas. Donc, par exemple, cette année, il y a fait assez froid sans être très très froid, ben, il y a des palmiers, les Washingtonia qui commencent à être plantés, ben, qui souffrent, hein, quand même, hein, qui perdent des feuilles, enfin voilà, des choses comme ça. Donc voilà, surtout aussi faites attention quand vous achetez un arbre, hein, voilà. Mais là, la neige, c'est redoutable pour eux, hein. Une neige un peu lourde, ça les casse, quoi. Après, vous allez avoir éventuellement à tailler les saules ou les noisetiers, ou même éventuellement les cornouillers. Et ça, on peut le garder des fois pour faire soit des tuteurs, soit des tressés au printemps dans le jardin, faire des brise-vues, des choses comme ça. Ça peut être assez sympa d'utiliser ça. Moi, chez moi, j'ai un osier. Alors, il est encore un peu petit, donc voilà, mais je l'ai retaillé déjà. Et je pense que l'année prochaine, il me fera une belle récolte, j'espère. Vous allez pouvoir aussi faire attention, en fait, là pour l'instant il fait froid, vous allez emballer éventuellement vos arbres qui sont un peu frileux ou vos arbustes qui sont un peu frileux. Par contre, s'il se remet à faire chaud, ouvrez-les. C'est des plantes qui craignent quand même quand on les enferme trop longtemps. Ça peut les abîmer pratiquement autant. Donc en fait, quand il fait froid, il faut les protéger. Et dès que le froid... Le froid, c'est somme toute différent suivant les arbres. Par exemple, le mimosa, c'est entre moins 6, moins 8 et moins 8, moins 10 au maximum. Si vous voulez, dès qu'après il fait, même ne serait-ce qu'un moins 2, moins 3 le matin, il n'y a plus besoin de l'emballer. Hein. Mais si ça s'approche de ces moins 6, moins 8, il vaut mieux éventuellement l'emballer pour être tranquille. Enfin, tranquille. On ne gagne que 3 à 4 degrés maximum quand on emballe un arbre, mais c'est déjà des fois énorme. Et puis après, éventuellement, commencer aussi à mettre un peu de compost ou du fumier éventuellement un petit peu au pied des arbres. Après, voilà, le compost va peut-être être un peu intégré par les colombriques. Et donc, le fumier va commencer, lui, à se dégrader et sera vraiment utile un peu plus tard. Mais voilà, pour ça, c'est plus pour fin janvier, peut-être tout début février. Voilà.
On en reparlera donc peut-être dans la chronique du mois de février d'un brin de jardin. Merci beaucoup Romain donc pour ce tour d'horizon de tout ce que l'on peut faire actuellement dans son jardin donc en ce mois de janvier. Romain Jacquier Laforge donc qui je le rappelle est jardinier nous propose chaque semaine ses chroniques brin de jardin. À très bientôt.
À bientôt.
Et pour bénéficier des conseils de Romain, n'hésitez pas chères auditrices et chers auditeurs à lui envoyer vos questions écrites par mail à brindejardin@gmail.com brin au pluriel. À très bientôt.